Chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de Nogent-le-Rotrou pour une nouvelle émission, Les Échos de ma commune. À la technique, Claude Casal, au micro, Jean-François Roland. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Victor Provost, qui est le maire de Thiron-Gardet. M. Victor Provost, bonjour.
Bonjour Jean-François Roland.
Bien, vous avez déjà eu l'occasion de venir au studio pour parler et présenter votre commune. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, j'aurais bien aimé que nous parlions des projets importants de la commune de Thiron-Gardet. Moi, je passe de temps en temps à Thiron-Gardet et j'ai vu qu'il y avait un début de travaux sur l'abbatiale de Thiron. Donc, si vous voulez bien nous présenter les travaux que vous allez faire pour l'abbatiale, comment vous les avez financés, quelle est la finalité de ce projet?
Oui, les travaux de l'église, en fait, quand j'ai été élu maire en 2008, l'église était fermée. On entamait des travaux d'étaiement du mur nord qui était en train d'emporter le bâtiment vers un effondrement. Donc on voulait absolument réouvrir l'église parce qu'elle avait été fermée pendant 2 ans et elle était dans un état pitoyable. Donc on a réalisé cette batterie d'étaiement qui a permis en sécurité de pouvoir réouvrir l'église et dans le but de faire des travaux assez rapidement. Mais c'était sans compter d'autres travaux importants qui étaient à faire sur la commune de Thiron-Gardet, qui étaient des travaux d'assainissement et de station d'épuration. Donc il y avait 2 projets à 4 millions d'euros. Donc l'église, il y avait 4 millions d'euros à faire de travaux là-dessus et 4 millions également pour les travaux d'assainissement. Donc il a fallu faire un choix. Le conseil municipal a d'abord décidé de faire le choix de faire les travaux d'assainissement dans un premier temps, parce que ça nous semblait plus urgent, en tout cas on avait plus de pression de l'État, en tout cas, pour l'assainissement que pour l'église. Et donc ça, on l'a réalisé maintenant, là on termine les travaux d'assainissement, et maintenant on entame les travaux de l'église. Ça a été assez douloureux à trouver les financements. On a eu bien sûr la DRAC, le ministère de la Culture, le conseil départemental qui a aussi abondé. Et puis on a lancé en 2012 une campagne de souscription populaire auprès de la Fondation du Patrimoine. Ce qui a permis quand même de lever pas loin de 60 000 euros. Et aussi on a touché un héritage d'une dame de Thiron qui est décédée, Madame Marais, Jacqueline Marais, qui a fait un don de 40 000 euros à la commune. Ce qui a permis en fait de boucler une première tranche de travaux de 600 000 euros. La première tranche de travaux était normalement d'1,5 million. Et comme on n'avait pas les moyens de les faire, on a découpé cette première tranche en 2 tranches de 600 000 qui nous permettent aujourd'hui au moins de lancer des travaux d'urgence parce que ça devient vraiment de l'urgence. On pouvait plus garantir l'ouverture de l'église dans ces conditions. Et donc il y a une période de fouille qui a été nécessaire avant. Donc depuis le mois d'août de cette année, on a entamé des fouilles par le conseil départemental. Les archéologues du conseil départemental sont venus fouiller tout le bas du mur nord, donc là où il y avait le cloître.
Oui, bien sûr, oui.
Et on y a trouvé d'ailleurs des choses assez intéressantes.
Par exemple,
ils ont d'abord trouvé une dizaine de tombes le long de l'abbatiale, qui étaient très anciennes, qui sont en train d'être datées, justement, de savoir de quelle époque elles datent, mais sensiblement, elles seraient du XIIe siècle. Donc des personnes qui étaient enterrées donc très proches de l'abbaye pour partir plus facilement vers les cieux, on va dire.
Oui.
Et en fait, les planches qui forment le coffre dans lequel elles étaient enterrées étaient en fait des demi-troncs qui étaient coupés et vidés, et les personnes étaient mises comme ça dans un tronc, un demi-tronc coupé. Donc c'est ce qui a donné l'idée aux archéologues de dire que les tombes sont vraiment très anciennes, puisque c'est ce qui se pratiquait beaucoup au XIIe siècle. Bon, à l'intérieur, malheureusement, il n'y a plus grand-chose, parce qu'après 900 ans,
l'érosion a fait son travail.
Mais, par contre, on a trouvé dans quelques... Donc de ces premières dizaines de tombes, en fait, on en a trouvé toute une série qui sont accolées les unes derrière les autres. Donc il y en a peut-être une trentaine en tout qui ont pu être répertoriées, dont quelques-unes qui étaient en pierre. Donc on a trouvé deux sarcophages en pierre avec des poteries à l'intérieur. Ce qui est assez étonnant et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le livre de Servan de Lair qui raconte la poterie du Perche, on parlait beaucoup de Coudresseau et de la poterie, où il y avait un lieu de fabrication de poterie dans le Perche qui était principalement utilisé pour l'abbaye de Tiron, mais on n'avait pas d'objet qui attestait de ce lieu de production dès le XIIe siècle. Eh bien, ces poteries peuvent nous prouver que donc, dès le XIIe siècle, il y avait déjà de la poterie.
On fabriquait de la poterie dans
le Perche. C'est quasiment, d'après les archéologues, les seuls qui sont connus aujourd'hui de cette époque. Donc c'est des informations qui sont toujours intéressantes et à découvrir.
Et sur ces tombes, on pense que c'est des gens de la société civile ou ce sont que des moines? Ça a été levé, cette question de savoir qui était enterré là?
A priori, ce ne sont que des moines. Peut-être quelques enfants, parce qu'il y a certaines tombes qui sont très petites. Mmh. Mais par contre, à partir du XVIe siècle, vu qu'on était sur le collège, en fait, le collège militaire, c'est construit, en fait, au XVIIe. Et au XVIIe siècle, du coup, on voit certaines tombes qui sont différentes des autres. Mmh. Donc peut-être que là, il y a peut-être des professeurs ou peut-être des laïcs qui seraient enterrés à cet endroit-là. Bon, c'est que des hypothèses. Pour l'instant, les archéologues sont encore en train de travailler sur leur découverte. Donc, on en saura peut-être plus l'année prochaine.
Et donc, tout ce qui est trouvé, c'est stocké quelque part et ça peut éventuellement être présenté.
Alors, oui, tout ça est stocké, répertorié. On a trouvé beaucoup de gravats du cloître. Alors, le cloître gothique, parce que c'est pareil, les archéologues ont découvert qu'en fait, l'église n'a aucune fondation. L'église a été posée sur la terre comme ça, elle a été fondée directement. Oui. Un cloître roman a été créé donc au XIIe siècle, qui a certainement été démonté au XIVe pour faire un cloître gothique. Mais pour construire le cloître gothique, on a décaissé le cloître roman, on a creusé de 40 à 50 cm. Mmh. Ce qui fait que, en fait, on n'a aucune idée de ce que pouvait représenter le cloître roman, il a été complètement démoli. Même si à quelques endroits, on a retrouvé des carreaux, des vestiges, mais c'est vraiment quelques bribes. Et tout ce qui nous reste, en fait, c'est plutôt le cloître gothique.
D'accord. Et alors donc, là, vous expliquez que vous êtes en train de faire la première tranche de travaux, qui, elle, consiste surtout à sécuriser le bâtiment. Mais au niveau esthétique, pour l'instant, une fois que cette première tranche sera finie, il n'y aura rien de spécial à voir, ou il y aura déjà des prémices du projet quand il sera abouti?
Ça va certainement changer beaucoup l'esthétique du bâtiment tel qu'on le connaît aujourd'hui, parce que il y avait deux énormes contreforts en pierre qui dataient du 19e et quatre étaiments en bois qui sont donc d'il y a une dizaine d'années. Les six étaiments vont être enlevés et remplacés par des arcs-boutants en béton. En fait, le travail donc de l'architecte a prévu de faire des reprises en sous-œuvre. Donc en fait, on crée une nouvelle dalle de fondation qui va venir se caler sous le bâtiment. Et de cette dalle en béton, qui va être harnachée par des micropieux qui vont chercher le dur très profond, vont reposer des arcs-boutants en béton qui vont venir soutenir le mur actuel. Et donc on va avoir une série d'arches travaillées, hein. C'est du béton tectonique, on a l'impression que c'est des arches gothiques, c'est du béton. L'idée, donc, ça va être de reconstruire en fait une galerie de cloître le long de l'église abbatiale.
Ah,
alors ce sera une galerie de cloître moderne, puisque c'est du béton. La prochaine tranchée de travaux sera de recouvrir ces arcs d'une toiture, une charpente avec une toiture en tuiles traditionnelles, de recouvrir la dalle en béton de pavés terre cuite, donc de rendre un peu esthétique cet ensemble technique. Là on est plutôt sur la technique, la première tranche de travaux c'est vraiment de stabiliser le bâtiment et de faire qu'on peut rentrer à l'intérieur sans aucun problème. La reprise en sous-œuvre qui a commencé là ces dernières semaines prouvait que en fait il y a un système de mesure du mur le cabinet d'études nous a appelé en nous disant on a relevé quelques mouvements du mur. Donc au début on s'était dit mince, le mur est en train de bouger, c'est un peu dangereux, et au final pas du tout, il s'est relevé de 4 mm. Ne serait-ce que juste en mettant la dalle en dessous le
bâtiment.
Et donc
à terme, quand toutes les tranches seront terminées, on pourra aller depuis l'église vers une espèce de galerie finalement recouverte. On pourra aller dans les
Tout à fait.
Entrer et sortir de l'église par là aussi.
L'idée, c'est de faire un ensemble. On a la Grange Audime avec l'office de tourisme et l'entrée des jardins. Oui. On a les jardins. Et l'idée, c'est de réouvrir les portes qui donnaient en fait entre l'église et le cloître pour pouvoir en fait que les visiteurs puissent passer d'accord, de l'un à l'autre sans aucun souci. Mmh. Et du coup, on pourra donc bénéficier de l'église abbatiale, des jardins et faire sortir par ces portes qui seront réouvertes.
Très bien. Et donc, indépendamment donc des problèmes de financement qui sont lourds. L'espérance de réalisation de toutes les tranches, c'est, vous voyez ça dans quelle perspective dans le temps ?
Alors, moi personnellement, j'aimerais bien entamer assez rapidement la seconde tranche pour pouvoir réaliser le côté esthétique, la toiture, les dalles, les etc., les charpentes etc., et tout. Oui. Donc, ça représente encore 600 000 euros. Mmh. Et là, c'est là où justement on tient à dire aux gens de continuer à donner auprès de la Fondation du Patrimoine pour cette souscription populaire, parce que c'est là où ça devient important. Les 600 premiers 1000 euros étaient importants pour stabiliser et sauver le bâtiment. Mais je dirais que la partie la plus difficile maintenant pour nous financièrement, elle est maintenant. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve absolument encore 600 000 euros pour pouvoir entamer très rapidement le côté esthétique. Et puis après, il y a d'autres travaux à faire. Il y a des reprises de murs, il y a des reprises des vitraux, il y a des reprises de toutes les charpentes à l'intérieur qui ont été complètement tirées. Donc il y a besoin de remettre un peu à neuf tout ça.
Moi j'ai une question, mais qui est peut-être iconoclaste. Je ne méconnais pas la loi de 1905, mais ce bâtiment est quand même un bâtiment religieux. Est-ce que il y a une intervention ou au moins une participation du diocèse pour les travaux que vous menez ou être associé au projet? Il n'y a absolument aucune participation?
Alors, il n'y a pas beaucoup de participation. Le père Coate est invité au réunion de chantier. Il est au courant des travaux puisqu'il en est l'affectataire. C'est pas une obligation, mais je veux dire, ça paraît normal.
Oui, bien sûr.
Maintenant, il n'y a pas du tout d'implication du diocèse sur l'église abbatiale. Je dirais que le diocèse est propriétaire déjà de beaucoup de patrimoine qu'il a à entretenir. On nous a fait comprendre qu'il y avait beaucoup de salles paroissiales et de presbytères qui étaient vendues pour justement rénover du patrimoine ailleurs. Donc, c'est assez compliqué de gérer du patrimoine, et c'est bien le diocèse, à mon avis, qui connaît ce que c'est que la rénovation du patrimoine.
Écoutez, je vous remercie pour toutes ces précisions. Est-ce que vous pouvez, justement, pour lever des financements, à qui nos auditeurs peuvent-ils s'adresser s'ils veulent participer à la deuxième tranche des travaux de l'abbatiale?
Écoutez, il faut aller sur le site de la Fondation du Patrimoine. Vous tapez Église Abbatiale Thiron-Gardé ou seulement Thiron-Gardé. Vous allez tomber sur une page et vous pouvez faire un don en ligne. Il faut savoir que les dons sont défiscalisés à hauteur de 65%. Et donc, ou alors vous vous appelez directement la mairie de Thiron-Gardé. On sera ravis de pouvoir vous renseigner.
Très bien. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause musicale. Bien, Monsieur Victor Provost, rebonjour. Donc, nous avons parlé tout à l'heure du projet que vous venez d'initier sur la réhabilitation, je dirais, de l'abbatiale de Thiron-Gardé. Est-ce que nous pouvons maintenant parler de votre projet pour l'accès aux soins, puisque vous avez créé donc un pôle santé à Thiron-Gardé? Si vous pouvez prendre la genèse de ce projet qui, je crois, maintenant est quasiment en finale.
Et alors là, je vais me faire le porte-parole de la communauté de communes, parce que c'est la communauté de communes du Père Tironnet qui a porté ce projet. Ça fait déjà quelques années qu'on y travaille. Il se trouve donc qu'on a deux médecins généralistes, on a deux cabinets d'infirmières, on a deux cabinets de kinésithérapie, un dentiste. Et donc on essayait de trouver le meilleur moyen de regrouper en fait ces professionnels dans une maison de santé. Ça a été très difficile parce que déjà on a deux généralistes qui sont partis, donc ont été remplacés avec on va dire un peu de difficulté, mais ça a été quand même pas trop difficile, parce que bon, on a eu de la chance de trouver deux professionnels assez rapidement qui ont pu prendre la relève. Mais bon, le but c'était vraiment de renouveler justement ces professionnels quand ils partent à la retraite, qu'ils aient un outil, un bâtiment et un outil de travail relativement moderne pour pouvoir le transmettre mieux à une nouvelle génération. Et donc l'idée de ce pôle de santé, c'était de dire bon, les maisons médicales telles qu'on l'entend et telles qu'elles sont subventionnées par l'État ou la région, il faut qu'il y ait un contrat de santé, il faut que les professionnels de santé soient d'accord, ils le sont rarement, parce qu'il faut partager des secrétariats, partager les salles d'attente, etc., etc. Donc ils en sont assez peu favorables. Au final, on est parti sur l'idée, et c'est Habitat Aurélien qui nous l'avait proposé, de partir sur des box. En fait, chaque cabinet est accolé les uns des autres, mais indépendant. Donc en fait, c'est un regroupement de professionnels sur un même site. Et donc il se trouvait qu'on avait l'ancienne gendarmerie à Thiron-Gardé qui était disponible. Donc Habitat Aurélien s'est chargé des travaux. Ils ont demandé aux professionnels de santé qui voulaient y aller ce qu'ils souhaitaient, en superficie, en pièces, etc. Et les travaux ont été entamés durant l'année 2015-2016. Et donc là, aujourd'hui, le bâtiment est terminé. Et le dentiste a déjà intégré son cabinet depuis un certain temps. Les cabinets infirmières viennent de rentrer et il ne reste plus que les deux médecins généralistes qui vont intégrer leur cabinet d'ici l'année prochaine. Ce qui est sûr, c'est que maintenant la maison médicale elle est pleine, donc on n'a plus de place pour de nouveaux professionnels, mais ça en attire d'autres. Par exemple, une podologue vient faire quelques permanences pendant que les infirmières n'utilisent pas le cabinet. Et puis ça attire quand même quelques nouveaux professionnels qui sont intéressés pour avoir un cabinet qui est moderne et neuf. Je sais que le dentiste a prévu déjà d'avoir la place à un collègue, donc ça va peut-être faire venir un collègue. Et puis on a un autre kinésithérapeute qui lui s'est rassemblé dans un autre site, donc là il l'a fait de manière privée. Il a racheté l'ancienne imprimerie Ferrand sur la route de Beaumont-les-Hôtels pour en faire un cabinet privé où il y a le kiné, une réflexologue et un ostéopathe. Donc ces trois professionnels sont ensemble dans un autre pôle santé, et on voit bien que le rassemblement de professionnels, c'est ce qui fonctionne. Je pense qu'il faut pas trop vouloir les cadrer, parce que c'est des gens qui travaillent très, ouais, ils sont indépendants, et ils veulent garder, ils tiennent à cette indépendance. Donc en fait, il faut les aider, les accompagner, mais pas les forcer à rentrer dans une maison médicale.
Et alors côté cours, qu'est-ce que la maison médicale offre à ces dentistes, ces médecins? En plus des mètres carrés et de la salle d'attente, ils ont un secrétariat qui est installé à Thiron ou qui est complètement délocalisé?
Du tout. Ils ont vraiment leur indépendance totale dans le fonctionnement de leur activité. En fait, ce qui est mis à disposition finalement, c'est des box. Enfin, chacun a son cabinet et chacun a son cabinet et donc paye son loyer indépendamment, son électricité, son chauffage, etc.
D'accord. Même le ménage, et chacun s'occupe de son ménage. Il y a pas un organisme qui vient nettoyer tous les box le soir.
Du tout. C'est vraiment quelque chose de très indépendant. Ce qu'ils aiment, en fait, c'est de se retrouver les uns à côté des autres, se dire que voilà, s'il y a un problème, on peut aller voir le collègue à côté, on peut aller prendre 5 minutes pour aller voir les infirmières, le médecin généraliste peut aller discuter avec d'autres professionnels. C'est de se retrouver ensemble qui les intéresse maintenant. Ils ne veulent pas partager leur activité.
Il n'y a pas de mutualisation de moyens.
Il n'y a pas de mutualisation.
D'accord. Non. Et là, même la salle, ils ont chacun leur salle d'attente ou il y a une
chacun leur salle d'attente.
Ah, c'est fou, ça.
Ah oui. Non.
Moi, je suis pas du tout dans le métier, mais je pensais qu'il y avait une espèce de mutualisation du secrétariat, de la salle d'attente, du ménage, etc. Donc, c'est chacun chez soi, sur le même, localement, dans le même endroit, quoi.
Tout à fait.
Et donc, c'est l'ancienne gendarmerie qui a servi finalement de point de ralliement pour ces médecins.
Donc le conseil, quand on a la nouvelle gendarmerie a été créée en 2007, donc le conseil départemental était propriétaire du bâtiment. Et donc, il avait rétrocédé à l'euro symbolique à la communauté de communes dans le but justement d'en faire une maison médicale. Donc, ça fait déjà 10 ans. Ça date déjà un peu. Et donc, le projet aujourd'hui s'est réalisé. Donc, on a choisi Habitat Aurélien donc, pour réaliser les travaux. Donc, il a fait les 6 cabinets médicaux et il y a 5 appartements qui ont été aussi rénovés. Donc, des appartements qui sont loués à des particuliers.
Et donc, c'est une structure de la communauté de communes. Est-ce que, compte tenu de ce que vous vivez au quotidien, le fait d'avoir 2 médecins, un chirurgien dentiste, etc., on peut considérer que l'accès aux soins des gens de la communauté de communes, il est réalisé dans des conditions correctes, ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faudrait faire pour avoir, j'allais dire, une situation optimale en termes d'accès aux soins ou...
Je dirais que d'avoir 2 médecins généralistes, c'est le minimum requis. C'est le minimum vital, j'allais presque dire, parce que on le voit bien aujourd'hui que dès qu'il y en a un qui prend des congés, ça arrive que l'autre soit aussi soit débordé, ou même absent aussi. C'est très compliqué. Donc, on a eu jusqu'à 4 médecins généralistes sur Tiron Gardé. Je pense que, 4, c'est peut-être beaucoup, mais au moins, il en faudrait presque un de plus. Mmh. Ça permettrait de sécuriser, en fait, et de rassurer un peu la population, parce que c'est vrai que les salles d'attente sont quand même très bondées. C'est difficile aujourd'hui. Malgré tout, les médecins généralistes ont tendance à beaucoup renvoyer vers les urgences quand il y a quelque chose qui est vraiment urgent, mais faut quand encore pouvoir se déplacer. C'est pas toujours simple de gérer les urgences. On est quand même dans une période de transition où le service aux soins est un peu différent de ce qu'on a connu avec le médecin qui était très disponible et qui se rendait etc.
Qui vivait des journées de 12 ou 14 heures, etc., et qui se déplaçait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si je téléphone pour avoir un rendez-vous avec un médecin à Tiron Gardé, je serai accepté, ou est-ce qu'on me dira non, le docteur il a toute sa clientèle, il peut pas prendre de nouveaux patients? Vous savez pas, vous n'avez pas eu d'expérience.
Je sais pas, mais j'imagine qu'ils, soit ils acceptent de prendre un nouveau patient, soit ils le renvoient vers un collègue qui est assez proche. Maintenant, je pense qu'ils ont tous les uns les autres de bonnes relations, mais c'est vrai qu'on sent bien que un troisième médecin serait un peu mieux.
Ça serait pas du luxe pour la communauté de communes.
Même pour eux, je pense qu'ils espèrent chacun avoir une vie un peu plus normale, j'allais dire, mais en tout cas, des horaires un peu moins contraignantes. Ce qui paraît aussi logique. Donc, pour avoir ce système-là, il faut un professionnel supplémentaire.
Très bien. Alors donc, vous nous expliquez que vous avez finalement, le département était propriétaire de l'ancienne gendarmerie. Donc, c'est ce bâtiment qui a servi pour le point de ralliement pour les professionnels de santé. Pour ce que je connais de Tiron Gardé, cette gendarmerie, elle est quasiment à la sortie de Tiron Gardé quand on va vers Combres. Oui. Et donc, il va vraisemblablement y avoir, j'imagine, des répercussions sur la physionomie du centre-bourg.
Alors, effectivement, l'ancienne gendarmerie, elle est dans la rue principale de Tiron, mais plutôt à la sortie. Ce qui fait que les professionnels de santé qui étaient dans le centre-bourg, et on va avoir du logement vacant. Il y a beaucoup de cabinets médicaux qui vont fermer pour aller dans la maison médicale. Enfin, c'est déjà le cas d'ailleurs. Et donc, ces cabinets vont être soit à relouer quand les professionnels étaient en location, soit peut-être revendus si les gens étaient propriétaires. C'est sûr que ça va nous causer encore plus de logements vacants parce que on a compté de la mairie jusque dans le centre-bourg, dans une seule rue, enfin une à deux rues, la rue principale de Tiron Gardé, il y a plus d'une vingtaine de logements vacants. Déjà. Donc en plus, quand on va rajouter les cabinets médicaux, ça va encore augmenter. Alors on est sur une période où on a quelques logements qui sont en train d'être réhabilités en logements privés, mais bon, il en reste encore beaucoup. Donc ça, c'est un des challenges qu'on s'est donné avec le conseil municipal, c'est d'essayer d'augmenter le logement, de lutter contre le logement vacant, de remettre des logements en location ou en vente, et puis de revitaliser un petit peu le centre-bourg, d'essayer d'améliorer le fleurissement, d'améliorer la circulation, les voies douces, de travailler aussi sur la problématique d'une place de village, parce qu'on n'en a pas. On a un carrefour dans le centre qui est un carrefour routier et qui n'est pas du tout une place de village. Donc on essaye d'acquérir des terres pour des terrains plutôt pour essayer d'aménager une place de centre-bourg sécurisée où on puisse les piétons soient tranquilles, qu'on puisse s'y stationner de manière sécurisée, qu'on puisse organiser des événements en toute sécurité également. Le carrefour de ce carrefour en fait routier est un peu dangereux et au final on peut rien y organiser. Donc même le marché on n'en a plus parce que c'est vrai que c'était très contraignant, on peut pas y stationner, ça prenait toute la place, c'est très compliqué. Et puis c'est un carrefour routier qui se trouve entre la rue principale, la rue du Commerce, et la rue de l'Abbaye, qui est de plus en plus touristique et donc qui pose aussi d'autres problèmes. Donc il faut qu'on aménage entre les deux un espace pour pouvoir organiser la sécurité des piétons et en même temps y organiser des événements.
Vous disiez tout à l'heure que vous aviez compté quasiment deux douzaines de logements vacants dans les rues du centre-bourg. En tant que maire et conseil municipal, qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous vous trouvez face à une situation où vous avez des bâtiments qui sont finalement pas abandonnés, mais enfin qui sont clos à l'année, etc. Quelles sont les armes dont vous disposez et les aides que vous pouvez soit recevoir, soit apporter pour résoudre ce problème?
Alors déjà, on a été épaulé par le Parc Naturel Régional du Perche qui avait fait une étude justement sur le logement vacant. Et puis de cette étude en est sorti quelques outils, dont la mise en place d'une taxe d'habitation pour le logement vacant. C'est-à-dire que le conseil municipal a voté pour mettre en application une taxe d'habitation pour les logements vacants de plus de 2 ans. Donc tout logement vacant de plus de 2 ans dans le centre-bourg est soumis à la taxe d'habitation comme n'importe quel logement. Ça a pour but d'inciter les propriétaires à soit à rénover les bâtiments pour les remettre en location, soit à vendre ces bâtiments pour qu'ils soient réhabilités et relogés en fait. Donc ça c'est un des premiers. Voilà. Donc ça c'est important. Et puis on a un phénomène qui est que les commerces qui sont en train d'être pris, enfin on a la chance à Thiron d'avoir énormément de commerces. On a plus d'une quinzaine de commerçants, on trouve quasiment tout, mais la plupart n'habitent de moins en moins en fait au-dessus de leur logement. Donc on se retrouve avec des commerces dont le logement qui est au-dessus est vacant. Donc ça c'est un autre problème qui est plus difficile à gérer, mais il faut qu'on arrive à travailler avec les commerçants, à essayer de voir avec les propriétaires, essayer de voir comment on peut essayer éventuellement à mettre des accès extérieurs ou différer du magasin, donc ça demande aussi quelques travaux, etc. Mais la région apporte quelques aides, donc puis nous, communes, on est là aussi pour essayer d'apporter des... En fait, on joue plus le rôle un peu de médiateur d'accompagnant dans ces projets-là. On peut pas inciter...
Sauf si les propriétaires de biens immobiliers, vous n'avez pas trop de...
Tout à fait, mais on essaye d'inciter, en fait, faire prendre conscience aux propriétaires qu'il y a un enjeu important, que voilà, on essaye d'accompagner au mieux en disant il y a peut-être des subventions, peut-être vous aider financièrement. Aujourd'hui, même la remise en état des bâtiments sont subventionnés par des prêts à taux zéro. On fait des efforts en termes d'écologie, en termes de confort, oui, etc. Donc, il y a des solutions.
Très bien. Bah, écoutez, Monsieur Victor Provost, moi, j'ai été ravi de passer cette demi-heure avec vous. Je pense que vos journées sont bien remplies parce qu'on a commencé avec l'abbatiale et puis des fouilles archéologiques remontant au XIIe siècle et puis la concrétisation donc de votre pôle santé et puis maintenant la conséquence de ce pôle santé qui est donc la revitalisation du centre-bourg. Donc merci pour votre temps et je pense que nos auditeurs seront ravis de partager avec vous vos succès, vos projets et puis vos interrogations. Merci beaucoup.
Merci à vous.